Nous sommes anonymes, nous sommes dans l'ombre. Les sous-bassements sont nos refuges, ils seront vos tombes. Du formol ou de la putréfaction, le capitaliste n'est que la chair. Nous en serons les lombrics obèses. Ni oubli ni pardon. www.libradio.org. La radio de la fosse et de l'abîme.
Voilà, donc nous sommes dans les conditions directes depuis la salle du Faubourg, ce 9 novembre 2018. Hein. Nous sommes là parce qu'effectivement, le 9 novembre, eh bien, c'est un jour important pour Libre Radio, mais pas que, évidemment, pour Libre Radio, puisque l'on commémore la fusillade, la tuerie qui a eu lieu en 9 novembre 1932 à Plein Palais, dans les conditions sur lesquelles on ne va pas revenir maintenant, puisque tous ces podcasts qui seront mis à disposition sous peu, eh bien, parleront de tout ceci. Alors bienvenue Rosa, bienvenue Staff et bienvenue Mounir. Vous êtes parmi nous parce que vous faites partie tous les trois des JRG, Jeunes Révolutionnaires Genève. Et alors on va pas commencer par vous, mais par contre voilà, je voulais déjà que vous soyez que l'on vous annonce ici à Libre Radio. Donc bienvenue à vous. Et puis nous sommes également en compagnie de j'allais dire de Mounir, de nouveau de Roderick. Pardon Roderick. Donc de Roderick et de Laura. Donc Laura, toi tu es co-rédactrice en chef du Courrier.
Exactement, bonsoir.
Bonsoir. Et puis Roderick, tu t'occupes de la rubrique culturelle et également de la rubrique musique. Bienvenue à vous.
Merci beaucoup, hello, salut.
Ça va? Tout va bien?
Oui, bien tout va bien. On est bien installés dans cette salle du Faubourg. Tout se passe bien.
Très bien.
En bonne compagnie.
Alors justement, nous allons commencer avec le Courrier parce que, eh bien, ce 17 novembre prochain, on fait quelque chose d'assez exceptionnel pour un quotidien, en plus un quotidien indépendant dont on salue et dont on va parler des singularités. Un quotidien indépendant comme le Courrier fête ses 150 ans.
Ouais.
Bon anniversaire.
Merci beaucoup. On n'a pas encore soufflé les bougies, mais on se réjouit.
Alors, donc ce sera le 17 novembre. C'est la date jour pour jour quasiment ou...
Non, alors c'est plutôt l'aboutissement de notre 150e anniversaire qu'on a étalé tout le long de l'année. La vraie date anniversaire qu'on a célébrée par la publication d'un numéro spécial, c'était le 5 janvier dernier. Et donc là, on va surtout fêter la fin de notre 150e année, on va dire. Donc le 5 janvier 1868 paraissait pour la première fois la feuille du dimanche des catholiques de Genève, le Courrier. Donc c'était un truc hebdomadaire déjà, que le dimanche, que pour les catholiques. On aura peut-être l'occasion d'en parler, mais c'était la grande question, comment est-ce qu'on assume cette histoire aujourd'hui en tant que quotidien de gauche indépendant. Dans un sens, on a envie de revendiquer le fait d'exister depuis 150 ans, mais on n'a plus rien à voir avec ce qu'il y avait il y a 150 ans, et c'est mieux, je pense. nos lectrices et lecteurs doivent en être plus contents. Ce qu'on a trouvé comme fil rouge un peu au fil de ces années, c'est le côté à contre-courant. En fait, quand le Courrier est né, il est né comme journal catholique en terre protestante dans un contexte extrêmement difficile de pression envers les catholiques qui pourtant représentaient une bonne partie de la population, mais qui étaient totalement minorisés politiquement parlant. Aujourd'hui, nous représentons une gauche qui n'est pas dans le mainstream, qui n'est pas dans la pensée dominante et qui essaye de se battre pour des personnes qui sont minorisées, dont les voix sont maintenues à distance, sanitaire, pour surtout veiller à ce que ça ne fasse pas trop des mules. Donc c'est un peu notre fil rouge, ça a été le côté à contre-courant, aller contre quelque chose qu'il y a autour de nous. Je ne dis pas que c'est un but en soi d'être juste contre l'environnement, mais on a observé que c'était vraiment ce qui faisait la particularité du Courrier à travers son histoire.
Et alors justement, ça tombe bien parce que dans vos dessins, il y a effectivement ce postulat d'aller à contre-courant. On trouvait que également parmi justement les jeunes révolutionnaires genevois, il y avait cette notion-là.
Ouais.
Donc l'idée, c'était de faire justement un petit peu cet aller-retour et ces analogies-là.
Totalement.
Et également par rapport à justement le mode d'organisation dont on sait que l'horizontalité en est une des particularités qui est vraiment mise en avant. Ça, je peux dire que pour vous, au JRG, c'est un petit peu c'est juste.
Ouais, absolument. On n'a pas de structure hiérarchisée avec des chefs ou des cadres. Après, c'est sûr, on a des groupes de travail différents qui fonctionnent indépendamment. Mais oui, en tant que groupe, on n'a pas de hiérarchie avec des rapports d'autorité à l'interne.
Clairement. Ok. Alors, je vais poser une question qui sera générale et puis chacun vous répondrez un petit peu comme vous voulez. J'avais envie que du côté des GRG, vous me disiez quel est le regard que vous portez sur le journalisme justement mainstream et sur ce journalisme de... particulier, engagé. Et puis du côté justement de vous, du courrier, de Lorraine Rodrigue, si selon vous, quand on se retourne en arrière et lorsque l'on, voilà, à l'aune de ce 150e anniversaire, est-ce que le journalisme pratiqué aujourd'hui est-il aux antipodes de ce qu'il a pu être, ou y a-t-il là des analogies qu'on peut faire et puis des valeurs peut-être qui, puisées loin derrière, peuvent animer la fonction, le rôle du journalisme et du journaliste aujourd'hui?
Bah, c'est intéressant. Je vois que ça s'organise à ma droite. Je prends deux minutes la parole. Notamment dans le cadre de la commémoration du 9 novembre, c'est une époque en 1932 où les médias ont joué un grand rôle parce qu'ils ont eu une analyse des événements où on a vu que la presse bourgeoise parlait de tentation de Léon Nicole qui avait poussé à l'émeute, et où il y avait vraiment aussi avant le 9 novembre une sorte d'émulation comme ça, il va y avoir une émeute, ça va être la révolution, attention. Et c'est le fait que des journaux et que les politiciens de l'époque s'en soient saisis de cette manière catastrophiste qui fait qu'on a envoyé l'armée avec des gens inexpérimentés et qui n'auraient pas dû être là. Après coup, on a quand même eu des analystes qui disaient que l'armée n'était pas nécessaire, mais qu'il y a eu une sorte de vent de panique qui a été aussi porté par les journaux. À l'heure actuelle, on voit que la presse, elle a un rôle dans les braises sur lesquelles elle va souffler ou dans les feux qu'elle va vouloir absolument éteindre. Au courrier, là comme ça, ça va peut-être me venir des exemples concrets, mais il y a des fois où on a l'impression qu'on doit un peu se battre pour dire, mais le focus, il doit être là. C'est ça le vrai problème actuel. Quand je relisais tous les événements autour du 9 novembre en préparant ce qu'on a aujourd'hui, que je voyais qu'il y avait des défilés fascistes, qu'il y avait des symboles très forts dans les rues et puis que ça aboutit à une fusillade, c'est vrai que toute proportion gardée, quand on entend aujourd'hui qu'il y a des groupuscules fachos qui reprennent du pouvoir à Genève, qui caillassent des vitrines et tout ça, la façon dont les journaux vont en parler est importante. Et on essaye de ne pas faire de catastrophisme, de ne pas héroïser certains actes, c'est hyper important. Et des fois, c'est un peu difficile hein, comme média.
Ok. Alors justement, de votre côté, le regard que vous portez sur les médias mainstream et sur les médias, peut-être, disons, les médias offensifs, engagés, médias de combat?
Je dirais que ce qui est très important par rapport en tant que groupe militant, en tant que groupe militant comme celui que nous sommes, c'est qu'à un certain moment, les médias qu'on peut considérer comme mainstream, bien sûr, vont avoir une tendance à faire du sensationnalisme en fait. Ils vont avoir une tendance à chercher par divers moyens de vraiment catégoriser notre groupe comme faisant partie d'une certaine ultra-gauche avec toute la ribambelle de clichés qui va avec. Donc par réflexe, on a tendance à se méfier de ce genre de médias. Parce qu'effectivement, comme tu le disais, c'est très juste, un média est autant relayeur d'opinion que formateur d'opinion. Et ça, c'est extrêmement important de s'en souvenir, surtout quand on doit traiter de sujets extrêmement politiques. Donc, le rapport aux médias qu'on a, il faut savoir qu'en fait, on est très heureux d'avoir encore des médias sur Genève, comme par exemple Le Courrier, qui permettent, ou Libraio, qui permettent de prendre un certain recul critique sur les choses et ne pas juste se jeter sur des faits sans aucune analyse politique derrière. Donc oui, on a besoin de médias engagés. Maintenant, notre but aussi à nous, c'est d'être le plus visible possible. C'est pour ça notamment qu'on a des pages Facebook, Instagram, etc., qu'on essaye de montrer un certain visage pour aussi casser justement ces clichés que certains médias considérés comme mainstream vont véhiculer et puis finalement entretenir pour entretenir un mythe qui vend très bien auprès des gens en fait. Et ça, je pense que c'est vraiment le grand enjeu par rapport aux médias dans notre période, c'est comment est-ce qu'on va traiter l'information, comment est-ce qu'on va faire que cette information n'influence pas cela. Je prends l'exemple par exemple de l'Aquarius ou de toute la crise des réfugiés, surtout en France. Beaucoup de médias, comme je sais pas, Le Figaro par exemple, vont vraiment traiter ce sujet-là d'une manière pas forcément alarmiste, mais qui clairement n'a pas d'analyse politique sur le pourquoi du comment finalement de ces réfugiés. Ils balancent des faits, et ces faits-là, ils savent que ça va entraîner une certaine réaction du public, qui pour eux fonctionne, donc ça va leur permettre de vendre des copies, mais en face, ça va avoir des conséquences politiques et dans la société en général.
Très bien, très bien, très bien. Ouais. Roderick, tu voulais rajouter quelque chose?
Ouais, je voulais ajouter le fait que Avec Internet, il se passe aussi un peu une révolution du métier. Et puis, par exemple, pour s'en tenir rien qu'au local, à Genève, puisqu'on parle de Genève, par exemple, le fait qu'il y ait un site comme Renversé ou qu'il y ait effectivement des pages Facebook, c'est à la fois des sources pour nous aussi nouvelles, qui, quelque part, ne sont pas traditionnelles, sont proches du terrain. En même temps, ce n'est pas du journalisme au sens traditionnel du terme. Mais en fait, voilà, parfois, pour nous, c'est évident, c'est intéressant d'avoir ce genre de média qui vient quelque part aussi un peu titiller notre pratique, faire remonter des infos brutes du terrain. Mais bah, quelque part, ça nous dédouane pas, nous aussi, de faire un type de journalisme peut-être plus traditionnel, mais en gardant un prisme quand même politique, quoi, qui est forcément pas le même que chez nos collègues de la presse bourgeoise, on va dire. Et par exemple, une question, moi ça fait 20 ans que je suis au courrier, qu'on entend cycliquement revenir, c'est: est-ce que vous êtes d'abord journaliste ou militant? Alors ça fera peut-être rire ceux qui pensent que le courrier, par rapport à leur curseur à eux, ils trouvent le courrier presque un peu mainstream déjà. Mais sachez que même au courrier, cette question, elle se pose. Parce que même si on n'est pas encarté, on a toujours eu cette question qui a été posée à l'interne. Dans notre façon de bosser, est-ce qu'on est d'abord journaliste ou militant? Puisqu'on a souvent tous un ancrage associatif où on a fait partie, où on est syndiqué, enfin voilà. Et on a une certaine sensibilité politique, c'est évident, elle est affirmée, elle est claire. Donc voilà, par rapport à ce mythe de l'objectivité, qui à notre avis n'existe pas, puisque déjà choisir ses sujets, angler ses sujets d'une certaine manière, c'est déjà politique. Donc chez nous, bah, peut-être qu'on assume un peu plus, alors que dans d'autres rédactions, on vous dira: ah non, non, mais nous, c'est la neutralité, etc.
Il faut savoir que parmi vos modalités, il y a cet effort d'horizontalité qui vous met quoi qu'il en soit, qui en dit long sur vos valeurs, quoi qu'il en soit. Enfin, les pratiques sont de toute façon là, qui sont les mêmes, comme on a fait tout à l'heure l'analogie.
Ouais, à part ça, au courrier, la question de l'horizontalité est hyper importante. Alors, on est obligé, légalement parlant, d'avoir des responsables, parce que le jour où des personnes portent plainte pour tel ou tel article, on peut pas non plus se permettre que n'importe... on a des collègues qui ne souhaitent pas se retrouver devant les tribunaux, quoi. Il faut quand même dire qui sera légalement responsable. Par contre, on a cette co-rédaction en chef multiple qui a été faite, qui a été mise sur pied pour éviter les crises de gouvernance, parce qu'on a vu que quand il y a un mec, parce que ça a été que des hommes jusqu'en 2012, sur 150 ans d'histoire, il a fallu attendre 2012 pour avoir une femme raid en chef. Mais donc avant ça, il n'y a eu que des hommes seuls, raid en chef. Et on a vu qu'en étant plusieurs, tu dois débattre de tes idées. Il y a moins de crise d'autocratie, quoi. Ça vient avec. Mais ça s'entraîne, par contre, au quotidien. C'est hyper important, je sais pas au niveau de votre groupe, mais...
Non, tout à fait.
Parce qu'il y a des fois aussi un peu la tendance, les gens se disent « Oh, bah, ça roule, lui, il gère bien, ou elle est OK, vas-y, fais, je suis d'accord avec toi. » Moi, des fois, j'ai un peu ça, les gens qui disent « Ouais, quoi que tu fasses, c'est bon. » Et je suis là « Non, ouais, ça applaudit à ma droite. » Et t'es là « Non, mais viens, tu participes à la discussion, même si c'est pour dire que t'es OK. » Mais j'ai besoin qu'on en discute, quoi.
En fait, pour qu'une horizontalité marche, il faut vraiment que ce soit un engagement commun de toutes les personnes qui participent à ça. Parce que tu as tout à fait raison. Il y a un risque de création de chef informel, finalement, quand certaines personnes se retirent du débat, se retirent de la prise de décision. Et c'est un travail de tous les jours, en fait. Clairement, nous, on le remarque à travers nos réunions, en fait. Il y a certaines personnes qui vont avoir tendance naturellement, en fait, à plus vouloir prendre la parole, plus vouloir proposer de choses. Et il faut toujours rester très prudent à pouvoir garder ces idées qui sont amenées, qui sont souvent très bonnes, mais aussi permettre à d'autres personnes qui ont moins tendance à se mettre en avant de pouvoir elles-mêmes apporter leurs idées. Et pour ça, forcément, ce qui est nécessaire, c'est de créer un cadre sécurisant pour ces personnes-là, un cadre sans jugement où, en fait, toute idée est bonne à prendre. On n'est absolument pas dans une sorte de compétition de qui aura la meilleure initiative politique. Et voilà, c'est ce qu'on essaie de créer. Mais c'est vrai que c'est un travail de tous les jours qui n'est pas facile.
Et ce qui m'intrigue, moi, parce que des fois aussi, et je l'ai vu au courrier, quand tu es face à des gens qui ont pas mal d'expérience, qui connaissent bien, qui ont un cadre aussi de pensée hyper clair parce qu'ils ont fait telle ou telle étude, toi, tu arrives avec un peu ton feeling. Et en face, tu as facilement des gens qui vont dire « Non, mais ça, c'est n'importe quoi. Tu n'as pas lu tel ou tel auteur. Lui, il a déjà tout fait, tout dit, tout pensé et il ne pense pas comme toi. » Enfin, ça, des fois, je sais pas. Pas comment vous le gérez, en fait.
Alors, je me permets de prendre la parole, du coup, parce que je suis un peu la nouvelle. Ça fait longtemps que je suis politisée, mais ça fait un peu plus d'une année que je suis dans un groupe militant à proprement parler. Et c'est vrai que j'ai été confrontée beaucoup à un regard un peu supérieur de « Ah, mais toi, t'es la petite nouvelle. » En plus de ça, je suis une fille, du coup, ça aide pas. Mais c'est vrai que d'autre part, j'ai aussi ressenti beaucoup de bienveillance et on m'a souvent fait la remarque que comme je suis nouvelle et que j'ai un regard politique et donc nouveau et naïf dans le bon sens du terme, j'ai des idées que les anciens n'ont pas. Et du coup, je peux me permettre de sortir du cadre et d'avoir des propositions qui ne correspondent pas au moule qui se crée un peu naturellement avec le temps. Et finalement, les personnes nouvelles, peut-être moins expérimentées, parfois c'est important de leur rappeler qu'il faut quand même avoir des bases et avoir lu certaines choses et comprendre certaines choses. Mais c'est aussi important d'oser, en fait, d'innover en permanence parce que le monde ne va pas arrêter de changer et c'est à nous de changer avec, au final.
Ce que j'ai remarqué au journal aussi, parce qu'on a des personnes qui sont là depuis 30 ans hein, au courrier. Moi, je suis arrivée en 2012, donc j'ai 30 ans, donc je suis jeune, je pense. Voilà. Mais c'est vrai que parfois, quand tu discutes avec les gens, tu as des collègues qui sont là un peu déçus du grand soir qu'eux n'ont jamais vu arriver. Ah ouais, mais à l'époque, ça, on a déjà fait, on s'est déjà mobilisé, cette grève, on l'a déjà faite, ces choses-là, on les a déjà portées. Moi, j'arrive, je suis mais moi, j'ai pas connu tout ça et j'ai juste envie de me battre et je trouve que ça vaut la peine là maintenant. Et des fois, c'est mon petit truc, des fois, je dis à mes collègues, écoute, moi, la chute du mur de Berlin, je ne m'en souviens pas. Voilà, j'avais un an, non. Donc, j'admets que moi, j'ai mes bases, qu'elles sont pas les mêmes que les tiennes. Et on a un peu un échange comme ça. J'ai l'impression que ça me fait vraiment du bien d'avoir des gens qui ont de l'expérience, qui m'amènent ça. Mais que ça leur fait peut-être aussi du bien des fois d'avoir un petit peu de punch comme ça qui dit non mais vas-y on y croit encore.
Nous à l'interne en fait on a une moyenne d'âge qui est quand même assez jeune, je pense qu'on n'a personne qui a plus de 30 ans, même personne qui a plus de 25 ans je crois, 27 ans je crois. Mais par contre on a créé ce groupe, on en parlera peut-être après, mais parce que justement on avait besoin d'une structure qui était à nous, qui était pour les jeunes et un peu libérée des personnes plus âgées qui militaient avec nous pour les personnes qui étaient déjà là avant. Et effectivement, c'est un des premiers trucs qu'on a ressenti quand on s'est mis à militer dans ce groupe-là, c'est qu'en fait, on avait une liberté de faire des choses que les personnes avec qui on militait avant ne voulaient plus faire, ou on avait assez de faire ce genre de choses, ou disons, avait une certaine lassitude en fait. Et même les personnes qui ont le plus d'expérience dans le groupe, on a une espèce de renaissance un peu en tant que militant. Et puis encore plus, comme on parlait avant, en fait, les nouveaux militants qui nous rejoignent, pour qui c'est le premier groupe, en fait, c'est une force exceptionnelle en fait, pour nous, en fait, parce que vraiment, on a ce truc que des gens n'ont jamais fait des choses, sont pleins d'énergie, pleins de motivation, et nous mettent des fois des coups de pied aux fesses à ceux qui ont déjà un petit peu une lassitude qui s'installe au bout d'un moment, prise de conscience d'un problème, réaction, action, et puis voilà, on tombe un peu dans une routine, et des gens sont là pour nous dire « Non, mais en fait, c'est important ce qu'on fait, et puis nous, on a de l'énergie, on est là pour faire ça, et puis voilà, c'est quelque chose, on se nourrit, en fait, de ça, à l'interne, en tout cas. »
Tout à fait. Puis un détail, typiquement, déjà, il n'y a pas une gauche, il n'y a pas une forme d'être progressiste, ou d'être, d'avoir des idées révolutionnaires. Ce qui est assez drôle, c'est qu'il y a, par exemple, à la rédaction, des débats qu'on a vus émerger ces dernières années, qui sont typiquement pas des débats gauche-droite, mais qu'on peut avoir au sein de la gauche sur, alors évidemment, il y a certaines options politiques, mais il y aura aussi sur des questions plus sociétales ou d'éthique, par exemple, typiquement le végétarisme ou le véganisme, le féminisme avec une attention pas juste homme-femme à l'ancienne, mais LGBT, les questions toute l'intersectionnalité, c'est quelque chose qui est vraiment arrivé très fort, amené par... des nouveaux regards, les plus jeunes qui sont arrivés au courrier. Et du coup, ça donne des fois des débats intéressants au sein même de l'équipe où il n'y a pas en fait une unité, tu vois. C'est pas un bloc, c'est vraiment pas un monobloc. Et tu vois différentes, une gauche plus tradie avec ses références idéologiques, voilà, son ancrage, tu vois, c'est l'époque, c'est la guerre froide, quoi. Et puis après, tu as une gauche plus alternative. Et après, tu as encore une gauche alternative dans l'alternative qui est dans ses formes de lutte actuelles. Pas zadistes ou autres, et surtout ces questions afroféministes ou autres, enfin toutes ces nouvelles façons de faire émerger des luttes au sein même des luttes, quoi, qui se révolutionnent de l'intérieur aussi, qui se diversifient.
Alors on va alterner des questions un peu plus triviales et puis des questions également de fond. Justement, revenons-en aux 150 ans du courrier. On a dit 150 ans de ce côté-là. Et vous alors, les JRG, depuis quand, pourquoi, comment? Parce qu'on n'en a pas encore parlé, donc step by step. Hein.
Ouais, alors, depuis quand ça fait, je pense, plus d'un an et demi qu'on travaille sur le projet. Mais ça fait depuis le mois de mai qu'on est officiellement lancé avec une page Facebook et qu'on est officiellement créé, quoi. Mais ça fait plus longtemps qu'on travaille dessus. Donc le groupe qui a fondé le petit noyau qui a fondé le groupe à la base, on est issu de divers groupes politiques qui existaient déjà avant sur Genève, militants plutôt à l'extrême gauche, anarchistes ou autres. Mais du coup, on s'est formé avec une certaine désillusion de ces groupes-là sur certains aspects. Après, ça reste des camarades qu'on apprécie énormément et qui on milite encore activement. Mais il y avait une espèce de volonté de s'ouvrir sur l'extérieur, d'aller chercher des jeunes, d'aller chercher des nouvelles forces. On trouvait qu'on s'enfermait petit à petit dans un entre-soi qui est très très productif pour certaines actions, mais qui ne l'est pas du tout pour d'autres. Et du coup, voilà, on a eu cette volonté d'aller chercher des gens ailleurs. Et du coup, c'était, à la base, c'était vraiment un groupe de potes qui s'est rencontré dans une cuisine de chez un ami, voilà, autour d'un plat de spaghetti bolognaise, vegan. Et ça a fonctionné comme ça. On a commencé à réfléchir là-dessus, à quelles étaient nos bases communes. Donc, on n'a pas de base commune, disons, marxiste ou anarchiste. Voilà. Il y a des marxistes dans le groupe, il y a des marxistes-léninistes, il y a des anarchistes. Voilà. On essaie de travailler ensemble là-dessus, de débattre. Ça fait des débats parfois un peu enflammés en dehors des réunions, parce qu'on se taille beaucoup là-dessus. Mais voilà, le but et la base commune du groupe, c'est vraiment d'aller chercher des gens qui n'ont jamais milité, d'aller dire à des jeunes qui sont plutôt politisés à gauche, mais qui ne trouvent pas de porte d'entrée sur Genève, parce que Genève, c'est très fermé. Personnellement, moi, ça fait 5 ans ou 6 ans que je milite. J'ai mis un an et demi à trouver un groupe qui voulait de moi. Quand j'ai commencé, je toquais à toutes les portes, personne ne répondait. Et en fait, on en avait assez de ça. En fait. On voulait vraiment que si tu es jeune, tu veux militer, tu fais un minimum de recherche, tu peux trouver un groupe qui t'accueille, même si tu n'as jamais rien fait. Et du coup, ça, c'est la base commune du groupe, c'est vraiment cette idée. Si tu veux militer, tu peux nous rejoindre. Voilà.
Alors, pourquoi militer et comment le faire, selon vous, de votre point de vue ?
Comment militer ? Je pense qu'il y a autant de façons de militer que de militantes et de militants. Je pense que ça sonne très bateau, mais je pense fondamentalement que c'est vrai. Je pense qu'un bon début, et du coup ça rejoint la question des médias, c'est de s'informer, de faire un travail d'éducation politique et un travail de mémoire. Je pense que c'est une première forme de résistance à la volonté de désinformation des médias mainstream notamment. Donc s'informer, rester informé, critiquer, garder un esprit critique, c'est relativement essentiel. Ensuite, comment militer ? Alors, je pense qu'il y a des millions de façons de le faire. Il y a l'échelle individuelle qui reste efficace par des choix, intervenir quand on est témoin d'une agression ou devenir vegan. Bref, il y a plein de façons d'agir à échelle individuelle. Et ensuite, moi, par exemple, si j'ai rejoint les JRG, c'est parce que justement, j'avais l'impression que de militer à échelle individuelle, ça ne me suffisait plus. J'avais besoin de nourrir d'autres personnes, j'avais besoin de nourrir d'autres personnes et j'avais besoin d'avoir un impact collectif. Et ça fait énormément de bien. Je pense qu'on se sent très esselé aujourd'hui quand on est porteur et porteuse d'idées révolutionnaires. Et de rencontrer d'autres gens avec qui on est d'accord, c'est un sentiment tellement soulageant, en fait, de se rendre compte qu'on n'est pas toute seule et pas tout seul et que voilà, on est nombreux et voilà, qu'on s'organise.
La collectivité, cette notion-là, elle est centrale. Alors, y a-t-il d'autres centralités dans vos luttes ? Y a-t-il des causes pour lesquelles sur lesquelles vraiment vous êtes toujours là ? Ou peut-on dire qu'en fait, ce sont des luttes entre guillemets holistiques, ça touche à tout, tout le temps, toujours ?
Alors, on est un groupe jeune, donc forcément, les thématiques qui touchent les jeunes sont les thématiques vers lesquelles on va aller en premier. Ça va de la lutte pour les conditions d'études. Il y a quelques années, il y a eu des grèves étudiantes. Nous, on y a participé en tant qu'individu, en tant que militant. Ça, c'est quelque chose, si jamais l'occasion se représente de remiliter là-dessus, si des conditions se dégradent à nouveau, c'est clair qu'on sera présent là-dessus. On a aussi la question des primes maladies, la hausse des primes maladies qui est quelque chose d'absolument scandaleux. On ne comprend pas pourquoi les gens ne se mobilisent pas plus là-dessus. On essaye d'apporter notre petite pierre à l'édifice, aussi modeste qu'elle puisse être, mais c'est vraiment quelque chose qui est scandaleux que les assurances maladies puissent augmenter à ce point-là. Ensuite, on a un groupe qui est clairement antifasciste. Comme vous l'avez dit, il y a une recrudescence des activités néo-nazies et d'extrême droite en ce moment sur le territoire. Je me vois, et pas que je me vois, malheureusement, dans le canton de Vaud, la situation est très grave. En France voisine aussi. Donc sur ce genre de thématiques, on se mobilise aussi. Et puis, comme on l'a dit, le féminisme, c'est une des valeurs importantes du groupe. En termes d'action, on va souvent se mobiliser dans les manifestations. On va faire des actions banderoles. Faire du tractage, c'est vraiment le genre de choses sur lesquelles on va bouger le plus. Notre but, c'est d'être un groupe le plus nombreux possible, ce qui nous prive de faire des actions peut-être parfois plus radicales, comme peuvent le faire d'autres groupes sur Genève. Mais par contre, on a vraiment cette volonté d'être nombreux et de pouvoir apporter un poids politique plus grand que nos prédécesseurs dans la rue, en tout cas. Et voilà, après, le féminisme, véganisme, c'est des choses où c'est des choses qui comptent beaucoup pour nous, quoi. Je sais pas si j'ai oublié quelque chose.
Moi, je m'intéresse à... Il y a le mot révolutionnaire. Concrètement, c'est... C'est pas rien, quoi. Vous êtes pas là, vous êtes pas réformiste, quoi. La question des assurances sociales, on peut imaginer que ça peut marcher par des réformes politiques, mais révolutionnaires. Vous avez un programme d'abattre le capitalisme. Et pour mettre quoi à la place? Enfin, comment vous vous situez politiquement?
Alors, c'est intéressant de relever ça, et c'est très juste dans le sens où une identité du groupe, notre identité est révolutionnaire, et ça veut dire. Notre but principal est d'abattre le capitalisme et toutes les oppressions qui vont avec lui. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on existe. On essaye, en créant en fait ce rassemblement de personnes, cette masse qu'on essaie de créer, de remettre, disons, la culture révolutionnaire au goût du jour, parce qu'on a souvent eu la sensation que dans notre génération, dans les milieux qu'on fréquentait, finalement, l'envie de construire cette révolution, parce qu'à nos yeux, ça se construit, ça n'arrive pas du jour au lendemain, elle était petit à petit partie. Donc c'est aussi un groupe qui a finalement une vocation presque parfois métapolitique pour juste en fait, remettre dans les esprits des gens la possibilité de changer les choses de manière beaucoup plus radicale et beaucoup plus efficace que juste électoralement parlant.
Ouais, comme on l'a dit, en fait, c'est vraiment l'idée, comme on n'a pas d'identité politique en tant que telle, de ligne politique théorique unie pour le groupe, l'idée c'est vraiment de dire, voilà, t'es jeune, t'as envie de militer, de faire de l'action révolutionnaire, donc blocage, manifestation, tu viens ici, on va se former tous ensemble, et après, comme chacun a sa propre sensibilité, par exemple, si on a une sensibilité plutôt marxiste, on va s'engager dans des groupes marxistes révolutionnaires qui existent en fait sur Genève, mais qui sont un peu plus fermés, et qui eux vont faire leurs actions dans leur côté, avec leur ligne théorique, leur agenda politique. Pareil, si jamais on a plus une sensibilité anarchiste, c'est un premier pas, c'est de venir chez nous et ensuite faire ses expériences à côté dans ce calendrier-là. Maintenant, si nous, on se fixe une ligne politique plus précise, si on dit, voilà, maintenant, on est marxiste-léniniste, c'est au hasard, hein. Si on dit qu'on est marxiste-léniniste, en fait, on va s'aliéner une grande partie de la jeunesse qui se définira comme anarchiste ou comme maoïste, etc. En fait. Donc c'est vraiment un choix de ne pas avoir une ligne idéologique précise pour ne pas se fermer une partie de la jeunesse.
D'accord. Alors, Roderick, tu as bypassé un petit peu ma question, mais je vais quand même revenir dessus.
C'est bien.
Alors, la question était la suivante, c'était comment écrit-on ces luttes? Alors, comment les écrit-on? C'est-à-dire, parce qu'évidemment, le courrier, c'est évident, c'est un journal, c'est de la presse. Alors voilà, comment est-ce qu'on lutte depuis un point de vue d'un journal lorsqu'il faut rédiger des articles, analyser des faits? Voilà, il y a toute cette notion-là, et puis restituer des choses. Et puis, comment est-ce qu'on le fait lorsqu'on a un groupe engagé comme le vôtre? Y a-t-il justement, une première partie analytique où on va repérer des choses, les analyser, puis on théorise peut-être, et puis ensuite on passe à l'action. Comment est-ce que ça se construit?
Alors,
des deux côtés, en fait, la question est pour les deux.
Alors, je ne sais pas si on commence nous, peut-être. Alors, les JRG, on n'a pas une volonté ni une utilité de plateforme informative ou de médias informatifs, si ce n'est qu'on est tous et toutes plus ou moins informés sur différents sujets, donc on s'informe parmi nous. Je pense que le travail de critique des médias et de ce qu'on lit et de ce qu'on sait et de ce qu'on voit sur les murs de nos villes, etc., c'est un travail qu'on fait toutes et tous individuellement, premièrement, mais qu'on fait également quand on se voit. On fait souvent des repas vegan où on discute ensemble et on parle de l'actualité, de ce qui se passe, de qui on a vu, de ce qu'on a entendu dire, etc. Donc le travail d'analyse médiatique, il se fait entre nous, il se fait à l'oral, il se fait dans des discussions... affinitaire ou non, d'ailleurs, ça se fait des fois en buvant un verre avec des gens avec qui on a plus d'affinité, je pense. Après, on n'est pas une page qui a une volonté d'être médiatique ou d'être informative, donc on n'écrit pas fondamentalement
Mais il y a cette volonté vraiment d'analyser, de théoriser et d'agir. Enfin, on peut dire que ce triptyque-là résume, d'une certaine manière, synthétise votre parti pris.
Oui, alors analyser ce qui s'est passé et ensuite agir, je pense que de... théoriser, on essaye de comprendre ce qui s'est passé, de l'analyser. Après, je ne sais pas dans quelle mesure est-ce qu'on considère que c'est théorisé ce qui en suit, mais on fait de la réaction et de l'action, disons, je pense.
D'accord. Et du point de vue du courrier?
Ouais, alors on organise donc déjà beaucoup de choses autour de notre charte. On a la charte du journal qui est notre boussole absolue, qui dit que
Nous sommes pour une société progressiste et humaniste, pour une société qui refuse les inégalités, qui refuse le... qui met l'humain au centre, mais qui refuse la, la fatalité, voilà, des inégalités. Donc, voilà, bravo Roderick, félicitations. Donc on a cette charte qui nous guide dans nos articles, et tout ça, ça se fait, bah, par exemple, en sélectionnant les personnes à qui on va donner la parole, parce que je prends un exemple, la, la loi sur laquelle on va voter sur la surveillance des assurés. Pour parler de ce sujet, tu peux aller vers les politiciens et faire le tour PS, PLR, UDC, PDC. Puis si tu es un peu à gauche, ah ben on va aussi prendre ensemble à gauche. Allez. Ou alors tu peux aller auprès des associations, de la société civile qui va subir directement l'impact de cette nouvelle loi. Et là, on a vraiment un rôle en termes de pondération. Il y a des personnes qui ont déjà tous les médias tout le temps à leurs pieds. C'est le réflexe. Les journalistes, ils ont tous les numéros de téléphone de certains politiciens. Donc, ils vont les interviewer tout le temps. Donc, on a vraiment un rôle d'aller chercher d'autres personnes. Ça passe aussi au niveau de la culture. Hein. Typiquement, il y a Roderick à ma droite. La culture, peut-être pas choisir que des gens... parce que c'est cool ou parce qu'il y a, un gros concert, mais aussi parce qu'ils portent des valeurs, des idées. Et la culture, pour ça, elle est vachement importante.
Oui, je l'avoue, j'ai beaucoup hésité avant de chroniquer le nouveau Bruel. Finalement, je me suis reporté sur autre chose. Non, mais par exemple, cette semaine, j'ai eu l'occasion d'interviewer des quatre brésiliennes d'un sound system 100% féminin, en fait, et qui déboulent à l'usine pour une semaine. Pardon ? C'est une soirée d'Upquake au zoo.
On a une collègue qui travaille juste après.
Ah oui, vous y allez, tout travaille. D'accord, ça a lieu donc ce soir, vendredi. Et puis, moi, dans ma petite tête de journaliste militant, d'abord journaliste, et avec un fond militant, c'est sûr que quand je vois arriver quelque chose comme ça, alors je fais pas que des choses comme ça, mais je me dis, avec l'élection qui vient d'y avoir au Brésil, avec le fait qu'aussi, c'est des femmes qui sont. Qui prennent la sono dans une culture reggae, dub, jamaïcaine, dont tout le monde sait très bien que, comme souvent, c'est très masculin, voire macho. Il y a beaucoup de choses à réformer de l'intérieur, sans du tout pointer du doigt, dénigrer, parce qu'on a tout le monde à balayer devant sa porte. Mais je crois que les femmes au sein de la culture du Saint-System ou du reggae, du dub, du dancehall le diront, seront les premières à le dire. C'est quand même super macho. Et puis on a une convergence de regards sur différentes questions qui sont super intéressantes, à part le fait que elles ont une vraie crédibilité musicale aussi dans la scène d'où elles viennent. Et puis ça c'est le genre de choix qui je pense sont pas complètement innocents probablement, ouais. Et puis, de mettre des fois le curseur, le focus sur des choses qui sont un peu sous la surface ou sous les feux médiatiques justement, dans l'ombre. Ça compte, évidemment.
Alors, je vais aller complètement dans ton sens, mais avant cela, on a vu qu'on a un temps imparti un petit peu limité. Donc, sachez que, quoi qu'il en soit, pour tous les thèmes que l'on n'aura pas le temps d'aborder, il y en aura plus que ceux qu'on va aborder, eh bien, on se retrouvera. Enfin, en tout cas, nous, on fera des propositions pour se retrouver et puis pour allonger jusqu'à...
Avec grand plaisir.
Voilà, c'est juste pour dire, si jamais un truc, on n'a pas le temps de le placer ce soir, on ne s'inquiète pas, on le fera une prochaine fois. La notion d'aller chercher, elle est apparue déjà pas mal de fois, je l'ai noté plusieurs fois. Des deux côtés, vous avez dit ce mot « aller chercher ». Alors, qu'est-ce qu'on va chercher ? Est-ce qu'on va chercher des gens qui viennent vers nous ? Est-ce qu'on va chercher justement de la contre-culture qui est anonymisée ou en tout cas qui est sous des couches comme ça ? Qu'est-ce qui est important pour vous d'aller chercher ? On commence peut-être par JRG.
Alors, ce qu'on va chercher, c'est effectivement, comme vous l'avez dit, en fait, c'est des gens qui viennent vers nous. Dans un premier temps, c'est vrai que c'est nous qui avons pas mal recruté les gens qu'on connaissait plus ou moins par affinité ou d'autres groupes militants, enfin voilà, les gens qui zonnaient autour de la scène militante, disons. Et puis là, on arrive à une période un peu charnière pour les JRJ, puisque c'est maintenant qu'en fait, des gens qu'on ne connaît absolument pas arrivent dans le groupe, nous envoient des messages pour intégrer le groupe. Et c'est vrai que c'est maintenant que c'est intéressant parce que notre volonté d'être à la fois radicale et populaire et accessible va se mesurer maintenant. Et c'est vrai qu'on rencontre des gens qui sont moins politisés, avec des guillemets, ou qui sont moins déconstruits, etc. Et c'est maintenant qu'on jauge vraiment à quel point en fait on est accessible, à quel point on est capable de transmettre nos valeurs aussi. Parce que c'est bien beau d'être extrêmement déconstruit et d'avoir tout un vocabulaire militant, mais si on n'est pas capable de le traduire en fait à quelqu'un qui n'est pas formé, ben, j'estime que voilà, on sert à rien, on sert à une moindre échelle. Donc voilà, je pense que là, on a un peu terminé le travail d'aller chercher les gens, si ce n'est en donnant envie aux gens de venir, mais là, c'est plutôt les gens qui viennent en ce moment, et c'est chouette de voir aussi qu'en fait, il y a une demande qui se manifeste, en fait.
Mmh. Alors, du côté du courrier.
Nous, on va chercher des abonnés, déjà.
Bien sûr, bah oui.
Il faut,
oui,
il faut.
Mais c'est important.
Mais c'est hyper important parce que le journal fonctionne grâce aux gens qui nous lisent, qui payent à la hauteur de leurs moyens. Ça, c'est quand même un truc aussi assez important. On a mis en place tout un système de prix. Donc, on a le prix réduit qu'on a essayé de rendre assez accessible, de pas seulement limiter. Il faut avoir une carte AVS pour avoir droit. Il y a des personnes qui sont à la retraite, qui gagnent bien leur vie. Il y a des gens qui ne sont pas à l'AVS, qui ne gagnent pas bien leur vie. Donc, on a essayé de faire tout un système voilà, où la question des dons en fait, permet aussi de subventionner les abonnements pour les personnes qui ont moins d'argent. Donc, on a essayé voilà, d'aller chercher des abonnés avec des moyens qui nous correspondent. Et on va chercher des sujets. Qu'est-ce que ça veut dire chercher un sujet journalistique? C'est un sujet soit qui est sous la surface que les autres n'abordent pas, n'ont pas abordé, soit qui est tellement important que même si on l'aborde 1800 fois, on y revient. Et là, je pense notamment aux questions migratoires. C'est vrai qu'on en a énormément dans nos pages, mais c'est juste, on n'a pas le choix. C'est un truc qui est énorme en ce moment. Là, dans l'édition du week-end, bah, on avait une double page sur Cédric Herrou avec interview de Cédric Herrou, plus encore les 3 plus 4 de Briançon. Bah, oui, ça fait beaucoup, mais ce n'est pas grave. On y va, on le rend intéressant, intelligible et on attire les gens à ça parce que c'est l'actu. Parfois, on entend des personnes nous dire « Ah, mais là, on n'en peut plus. » Enfin, c'est vrai que le côté précarité, migration, comme ça, on en a beaucoup, mais ce sont des thèmes hyper importants qu'on ne peut pas laisser filer.
Si je peux rebondir là-dessus, je crois que ça revient un peu sur la lassitude peut-être des anciens militantes, etc. C'est vrai qu'on ressent, alors j'ai pas envie de faire dans le cliché, mais c'est vrai que chez les jeunes particulièrement, on ressent cette non-volonté de savoir, parfois aussi chez les plus âgés, mais c'est vrai qu'en fait, la réalité dans laquelle on vit et l'actualité est difficile en fait. Il y a la montée du nazisme, le sexisme qui ressent le féminisme arriver, devient de plus en plus virulent. Enfin voilà, le monde dans lequel on vit ne va pas bien, les choses sont graves. Et c'est vrai que je comprends que des fois on n'a pas envie, on a envie de mettre des œillères et de regarder une émission de cuisine. Et c'est vrai que c'est difficile d'aller chercher la volonté des gens de lire. Et je pense qu'il y a des sujets comme les 3 plus 4 de Briançon, mais en fait tous les sujets militants et tous les sujets d'oppression en fait, qui sont des sujets difficiles à traiter mais aussi à lire. En fait, il faut ne jamais arrêter de les rabâcher parce qu'en fait, c'est la réalité. Et tant que les gens ne voudront pas ouvrir les yeux d'eux-mêmes, il faudra le faire pour eux, en fait. Ouais.
C'est clair. Après, il faut l'amener bien. C'est vrai qu'on essaye d'avoir des choses pas plus légères parce qu'il peut y avoir du fond, mais qui travaillent plutôt sur les questions de l'imaginaire et tout. On en revient aussi à la culture. C'est quand même quelque chose d'important dans un journal pour l'équilibrer. Ça rejoint aussi un peu autour de la fête du courrier, les 150 ans. On voulait mettre de la culture, en fait on voit qu'il y a du fond dans la fête qu'on organise. C'est pas juste qu'on va boire des verres, on va boire plein de verres, ça c'est sûr, mais par ailleurs, tout d'un coup quand tu vois toutes ces personnes sur qui on a écrit dans leurs œuvres au quotidien, en fait tout d'un coup ça fait sens de les avoir dans ton programme parce que c'est des personnes qui sont douées, qui ont des forces culturelles à proposer et qui sont par ailleurs féministes ou qui sont par ailleurs pour la défense des droits des migrants ou quoi. Ça vient en deuxième. J'aime pas qualifier les gens d'abord c'est une féministe, non, c'est une artiste, voilà, elle fait des trucs bien, mais par ailleurs c'est porteur de valeurs. Et ça devrait être aussi un peu notre journal. On devrait pas le lire juste parce que c'est féministe ou c'est contre la précarité. Ça doit se lire parce que c'est un bon journal qui porte des valeurs par ailleurs et qui les porte bien. On essaye de le faire, on n'arrive pas toujours aussi bien qu'on voudrait, mais on fait tout pour.
Là-dessus, en fait, nous, on ne pourrait pas être plus d'accord là-dessus. Cette idée qu'en fait, de militer, c'est bien, mais en fait, c'est quelque chose de normal en fait, et de bien à faire en termes d'amusement. Enfin, pas d'amusement, c'est pas du militantisme, loisir, ce qu'on fait. Mais en fait, nous, on avait aussi cette envie de casser le cliché un peu de l'extrême-gauche tapis dans son
rasoir,
coin. Voilà, tapis dans son coin, personne ne sait qui c'est. En fait, nous, à travers notre page Facebook et notre Instagram, on essaie vraiment de montrer que on est comme tous les autres jeunes et on s'amuse beaucoup avec nos hashtags, ce genre de trucs, pour essayer de montrer on est des jeunes comme tout le monde, on écoute du rap, on va en soirée, on va au stade de foot supporter le Servette en fait, et on essaie de faire ressortir ça en fait de notre groupe, parce qu'on s'est souvent rendu compte qu'il y avait une espèce de fossé entre les jeunes politisés et les jeunes non politisés, et nous on a vraiment cette envie de vouloir montrer, mais non en fait on est comme toi, on est le voisin d'à côté, on est juste en fait on milite, mais viens rejoins-nous, tu verras c'est cool, et on est pas plus différent que toi, on a les mêmes codes, on s'habille comme toi à peu près, et en fait voilà, c'est ce genre de choses qu'on essaie de faire transparaître à travers notre groupe. C'est voilà, militer c'est cool, mais enfin militer c'est cool et important, mais on n'est pas différent de toi, on est de ton voisin en fait, voilà.
C'est la camaraderie en fait, c'est un élément très important je pense dans les groupes militants, comme tout comme bah, nous dans, voilà, il y a un côté presque familial quoi. Enfin, on s'éclate à faire ce qu'on fait, on donne beaucoup, on donne plus que des horaires normaux. Et je pense que ça c'est très important de travailler dans des bonnes conditions, dans la camaraderie, dans le fait de tirer tous à la même corde, de s'entraider. Et puis de ouais, ça c'est quelque chose que, enfin, je pense qu'on est tous d'accord que les objectifs politiques ou professionnels sont importants, mais la manière dont tu le fais, ça fait partie de, ça fait partie de ta lutte quoi.
Voilà, on peut résumer en disant que la révolution, ça n'est ni une assaise, ni une torture, voilà, ni que ça peut être quelque chose de
la torture, extrêmement moi, en tout cas, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. La torture, c'est plutôt l'inaction. Mm-hmm. C'est plutôt le fait de subir. Mm-hmm. Le fait de subir, le fait d'être spectateur du désastre, mm-hmm. tu vois. Bon, ça fait souffrir.
Ouais. Alors, selon vous, que faut-il commencer par déconstruire? On l'a entendu, il y a des attitudes, il y a des images comme ça, des ressentis de certaines personnes, des images qui se sont formées au gré justement des médias mainstream, de la télévision, des choses comme ça. Sur quoi est-ce qu'il faut vraiment qu'on vienne, qu'on soit analytique et qu'on dépasse ces images que l'on s'est produites?
À mon avis, actuellement, mais pas seulement dans les groupes militants, mais en général dans la société, là je parle vraiment, ce qui se passe, c'est qu'on est dans une période charnière, historiquement parlant. Je pense qu'on assiste vraiment à une sorte de bouillonnement qui est en fait tout l'opposé de la fin de l'histoire que prédisait Fukuyama dans les années 90, etc. Ouais. Et toute cette suractivité en fait, politique est représentée par diverses identités. Et actuellement, ces diverses identités ont... On en fait quelque chose qui s'arrête à un cliché. Et ce qui est très important de déconstruire, c'est justement ça. D'aller vers les personnes, de montrer, comme mon camarade l'a dit juste avant, de montrer qu'en fait ces personnes-là ont cette identité pour une certaine raison. Que ces raisons-là, elles ne viennent pas de nulle part. Donc je pense que ce qui est très important, c'est de revenir à la base des choses, de comprendre comment est-ce que ces personnes-là se sont construites. Que ce soit par exemple pour des crises migratoires. Pourquoi est-ce que ces personnes arrivent en Europe? C'est pas pour rien. C'est parce que derrière, il y a des guerres. Par qui est-ce qu'elles ont été lancées, ces guerres? Souvent par les pays où ensuite ils essayent de se rendre. Par exemple, on peut avoir la même chose avec les mouvements LGBTQI. En fait, beaucoup de personnes les voient comme des sortes de personnes qui vont que à la Gay Pride et sinon ils ne les voient pas. En fait, c'est ton voisin, c'est ta voisine, c'est ton frère, c'est ta sœur qui n'ose pas le dire parce que toi, tu te moques de ces personnes-là à table. Et ça, c'est important de le rappeler.
D'accord. Alors, on va saluer, mais non sans que l'on rappelle en quelques mots, peut-être si vous avez encore deux minutes, quelques saillies du programme des 150 ans du Coury qui aura lieu, donc, le 17 novembre.
Donc, le 17 novembre, à la salle communale de Plein Palais. Dans le programme, il y a en ouverture un film incroyable qui s'appelle Le Quatrième Pouvoir. Si vous ne devez en voir qu'un sur la question des médias, c'est celui-là. Il est vraiment génial, par Dieter Fahrer. C'est un réalisateur suisse qui a été dans 4 rédactions, qui observe toutes ces logiques sur la consommation dans les médias, comment ils ont les yeux rivés aux courbes de cliquent sur leur site web, les licenciements et tout, mais qui donne vraiment aussi une idée du job de journaliste comme rarement je l'ai vu filmer. C'est vraiment incroyable, il faut venir. Et sinon, dans la soirée, y a l'Opéra Performance SOS Méditerranée sur la base d'articles parus dans Le Courrier, d'ailleurs, par Heike Fiedler et Marie Schwab. On a Paul, que les auditeurs et auditrices connaissent peut-être, ingénieur de son, et pas du son, mais de musique électronique non identifiée, jeune voix, qui sera chez nous jusqu'à tard. Il y a plein de choses. Il y a Julie Semoro et ses consultations, un cabinet audio improbable. Il y a une bibliothèque sonore avec des femmes d'aujourd'hui qui monologuent par téléphone sur des femmes de lettres du passé. Oh. On a Drosophile qui fera aussi un atelier de sérigraphie toute la journée. Enfin, il faut venir. Il y a des tonnes de choses. Il y a plein de trucs. C'est hyper
toutes
bien.
Toutes les infos, on les retrouve sur le site internet, sur la page Facebook également.
Il y aura Kara, musicien sénégalais qu'on connaît bien. Country Cooking qui va reprendre du jazz du Cap en Afrique du Sud, ouais, qui est très particulier, qui a été importé par les marins à l'époque, dans les années 50. Et puis, voilà, DJ, performance, musique et tout. Et bah, c'est beaucoup de gens qui viennent du tissu associatif dont on parle, dont on est proche, qui font un boulot génial avec peu, et voilà, qui devront donner de leur temps pour le courrier et pour ses lecteurs ou ses sympathisants ou les gens qui voudraient passer. Ils sont vraiment partenaires parce qu'ils viennent pour pas grand-chose et vraiment pour faire de cette fête un moment fort. Voilà. Et on vous remercie beaucoup.
Site internet et page Facebook.
Toutes les infos donc sur la page Facebook lecourrier.ch. On a un site spécial pour le 150e anniversaire où il y a absolument tout, c'est www.irréductible.ch, irréductible au singulier. Voilà.
Laura Corédac, chef du courrier, et Roderick de
la culture.
De rubrique culture. Voilà. Je vous remercie beaucoup et bon concert pour ce
merci
soir.
Merci beaucoup. Ciao.
Alors, si vous êtes d'accord, 2-3 petites questions encore et puis ensuite, on se retrouvera quoi qu'il en soit pour justement aborder plein de notions qu'on ne va pas aborder maintenant. Mais je voulais quand même vous entendre sur, selon vous, la situation Genève, de votre point de vue, où est-ce qu'on en est? C'est la cata, c'est non, parce qu'en fait, il y a quand même des choses dont on voit qu'elles émergent. Ce soir, on était 200 ici, c'est pas mal quand même, une centaine au nouvel emplacement historique de la pierre du souvenir à plein palais. Alors voilà, comment vous analysez la situation actuelle ici, à Genève?
Alors, à Genève, je pense qu'on est un peu dans une situation en demi-teinte. J'ai envie de dire que par rapport au reste de la Suisse romande, au reste de la Suisse et au reste de l'Europe d'ailleurs, on est plutôt dans une situation favorable. Genève, c'est quand même un berceau antifasciste. C'est une ville qui l'a été depuis des années, comme on le commémore aujourd'hui, qui l'est et qui le restera encore longtemps, je pense, notamment dû à la multiculturalité qui existe à Genève. En fait, la xénophobie et le racisme et les idéologies identitaires, en fait, n'ont pas leur place et ne sont pas compatibles, en fait, avec les énergies qui sont constamment nouvelles et renouvelées à Genève. Après, c'est vrai qu'on n'est pas, on n'a pas été oublié dans la distribution des groupes fascistes et néofascistes. On a aussi notre lot. C'est vrai que c'est des groupes qui restent minoritaires, qui restent peu visibles. Les anciens ont tous été dissous avec le temps, donc c'est vrai que en 2012, par exemple, la situation était beaucoup plus critique, il y avait beaucoup plus d'affrontements qui étaient violents entre les groupes antifascistes et les groupes fascistes. Aujourd'hui, c'est vrai que la situation s'est beaucoup calmée, à notre avantage plutôt. Il existe encore des groupes sur Genève et il existe aussi des individus qui ont des idéologies néo-fascistes et néo-nazis. Pour l'instant, Genève est plutôt, avec des grands guillemets, de notre côté. Et je pense que ça va durer, et pourvu que ça dure.
D'accord. Ouais, je pense que sur Genève, pour rebondir sur ce que disait ma camarade, en fait, le danger, c'est pas forcément l'extrême droite, c'est pas forcément même en termes pour la jeunesse en tant que telle, la droite. En fait, je pense que c'est même pas forcément ça, parce que si on regarde les jeunesses des partis plutôt de droite, c'est des jeunesses qui sont complètement fantoches, qui sont peuplées de gens qui sont là uniquement pour faire carrière et elles ont pas un poids forcément très important. Et il y a peu d'idéologies de droite qui sont très implantées dans la jeunesse. Par contre, moi je pense que, enfin, reprenez-moi si vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais j'ai vraiment l'impression que le principal danger à Genève et le problème à Genève, c'est l'indifférence, en fait. C'est que vraiment, il y a une volonté, c'est Gramsci qui disait, c'est le boulet de l'histoire, c'est vraiment le fait que, en fait, les jeunes ne veulent pas s'impliquer parce que ça ne nous concerne pas, parce que selon eux, ça ne les concerne pas, les problèmes, ils sont loin, ils ne les voient pas, on est à Genève, on a de la chance, on est du bon côté de la barrière, tout va bien, la ville, elle est propre, etc. Et c'est vraiment, je pense, le principal problème qu'on a à Genève, c'est l'indifférence de la jeunesse par rapport aux problèmes politiques, et c'est ce qu'on a essayé de dire dans certains de nos textes, c'est en fait, si les conditions de travail, elles se dégradent maintenant, et que ça ne vous touche pas parce que vous n'êtes pas travailleur, mais en fait, ça va être vos conditions de travail dans 10 ans, dans 5 ans, et c'est maintenant qu'il faut se mobiliser, parce qu'une fois qu'elles sont en place, c'est très très dur de revenir en arrière. Et du coup, nous, on a vraiment cette volonté de dire, mais en fait, c'est pas parce que les maçons, pour reprendre l'exemple de la grève des maçons, les maçons, quand ils se mobilisent, oui, ils militent pour leurs conditions de travail, c'est clair. Mais par contre, en fait, dans 5 ans, si t'es maçon, bah, ce sera tes conditions de travail. Et c'est maintenant qu'il faut se mobiliser, même si tu ne l'es pas encore. Et pareil, c'est des espèces de laboratoires. Il y a certains secteurs d'activité, c'est des laboratoires pour le patronat et pour l'État, de faire des expériences, voir, ah, ça passe. Bon, bah, alors on peut essayer de généraliser ça à la société. Et du coup, bah, c'est ce qu'on dit aux gens, en fait, c'est prenez de l'avance. Parce qu'une fois que les mesures elles sont en place, c'est très, très dur de revenir en arrière.
Alors, je te saisis au bon pour saluer mes camarades ludothécaires. Il faut qu'on se mobilise également. RFFA arrive, c'est une catastrophe. Et effectivement, comme tu le dis, nous, on a déjà ces menaces extrêmement concrètes où le patronat nous dit, eh bien, les nouveaux employés, on les engagera deux classes en dessous. Donc, on crée, voilà, on délite et on durcifie tout le temps ces conditions de travail. Donc, effectivement, mobilisons-nous toutes et tous. Qu'est-ce qui manque, selon vous, pour qu'on bascule dans quelque chose de révolutionnaire? Est-ce qu'il manque beaucoup? Est-ce qu'il manque pas tant que ça?
Moi, j'ai l'impression que, étant donné la gravité de la situation mondiale, pour ne pas citer les élections américaines, puis les élections brésiliennes, évidemment, en fait, là, on arrive à un point de non-retour, pour moi. C'est pas simplement des groupes néo-nazis qui se promènent dans les rues, c'est déjà extrêmement grave. En fait, là, ces personnes-là sont au pouvoir. Et je pense que petit à petit, on voit, ça réveille les gens, ça met des électrochocs. Et c'est malheureux que ça doive se faire par la montée du néo-fascisme, que les gens réagissent. J'aurais souhaité que l'antifascisme ne soit pas qu'une réaction au fascisme, mais ça l'est. Je pense que malheureusement, les gens sortent de l'indifférence une fois qu'ils sont personnellement touchés. Et c'est triste, c'est dommage, mais voilà, il faut construire la solidarité pour éviter qu'on vienne toquer à notre porte avec le fascisme.
Oui. Oui. Et surtout, je pense aussi qu'on se rapproche de cette situation révolutionnaire par des initiatives qui, à des niveaux peut-être plus petits que ceux d'un pays, ou même, ça dépend, des choses se passent. Par exemple, là, j'ai envie de prendre l'exemple du Rojava au Kurdistan, qui est vraiment une expérience révolutionnaire en soi. Ce sont des combattants qui, lors du délitement d'un État qui était celui de la Syrie, qui en fait maintenant n'est plus que contrôlé par diverses factions sur le territoire, il y a des mouvements kurdes qui étaient déjà prédécemment organisés qui tout d'un coup ont su saisir cette occasion pour réussir à construire un nouveau modèle de société. Et bien entendu, ils n'ont pas lancé une révolution mondiale, mais ils ont déjà proposé un exemple. Ils ont proposé une manière de faire, à nous de voir, à nous d'en tirer des conclusions, à nous d'en tirer des forces, à nous de se rendre compte qu'en fait, grâce à ces situations révolutionnaires à des niveaux, on va dire, plus locaux, on peut construire des situations révolutionnaires dans nos propres localités, dans nos propres lieux, grâce à ces exemples, à ces motivations, parce qu'en fait, ça inspire. Ce genre de situation inspire.
Absolument, tout à fait. Rosa, je crois que tu vas partir bientôt. Combien de temps il nous reste? Parce que je trouverais sympa qu'on finisse à 3 et puis ensuite on remettra une prochaine fois. Tu as approximativement, c'est une minute ou un peu plus?
Je dois être dans 25 minutes à l'usine.
D'accord, donc une question et puis on s'arrête là pour aujourd'hui, ça vous va? Une question et puis juste la remarque. La remarque, c'était, y a-t-il une actualité de votre groupe que vous avez envie d'annoncer? Comme ça, vous y pensez deux secondes avant de... Voilà. Et puis la dernière question, alors c'est local, international. Je me demandais si effectivement, pour vous, les luttes, elles doivent être locales, certes, mais elles concernent une internationalité, outre qu'une intersectionnalité. Et alors, dans ce cas-là, avez-vous déjà des liens avec des groupes RPA-IRS ailleurs?
Alors, oui, en tant que groupe, en tant que jeune révolutionnaire de Genève, on a des liens avec les différentes organisations suisses, notamment les camarades bernois, les camarades zurichois, du canton de Vaud et de Thurgovie, qui sont maintenant... Ça fait vraiment plaisir de voir qu'il y a une jeunesse révolutionnaire dans ces cantons. Ça fait vraiment très chaud au cœur, et chaque fois qu'on peut rendre visite à ces camarades, c'est toujours un grand moment de camaraderie vraiment, qui fait vraiment plaisir. Et plutôt au niveau local, oui, on est en contact notamment avec le Secours Rouge Genève. On milite de manière très précise avec le Secours Rouge Genève.
Que l'on salue.
Que l'on salue. Notamment avec eux, bah, du coup, on a des contacts avec différents mouvements de solidarité avec les Kurdes, avec les Kurdes notamment. Ouais. Après, bien sûr, vu qu'on est une jeune organisation, on a peu de contacts forcément à l'étranger, mais on a quand même pu avoir des contacts avec les gens de l'Action antifasciste de Lyon, donc le groupe antifasciste Lyon et environ. Qui sont des bons camarades, qui on s'entend très bien, et différents groupes en France lors de nos déplacements. Après, il y a d'autres actualités, mais je laisserai mes camarades en parler.
Voilà.
Alors, pour les actualités, il y a l'Antifa Rally qui a lieu au mois de novembre, qui a déjà commencé avec le mois et qui prendra fin avec celui-ci. Alors, il y a différentes activités dans toute la Suisse romande et alémanique. Le but étant que ce mois-ci, il y ait une espèce de multitude d'explosions de petits événements antifasciste. Sur Genève, il y en a deux. Il y a le 17 novembre, comme pour le courrier, pour nous aussi c'est une date. C'est une exposition sur les groupes fascistes et néo-fascistes de Suisse et de Suisse alémanique. Le 17 novembre, c'est l'inauguration de l'exposition, ouais, à 19h au Silur.
Ah, au Silur, très, voilà, bien.
Il s'est organisé par le groupe de travail antifasciste Genève. Et ensuite, le jeudi 22, donc quelques jours plus tard, il y a une soirée à la Macno avec des DJs antifascistes lyonnaises derrière les platines. Et le but de la soirée, c'est de récolter des fonds pour le groupe de travail antifasciste Genève et pour l'action antifasciste genevoise. Et ça va être une super soirée. Il faut absolument
venez
venir.
Nombreux.
Super, super. On rappelle, Silure, c'est Chemin des Saules.
Oui, 3, c'est au bord du Rhône.
Voilà,
c'est
juste au bord
après
du Rhône. Tout dernier truc, comment est-ce qu'on vous retrouve sur Facebook, sur les réseaux sociaux?
Alors, c'est tout simple. Sur Facebook, il suffit de taper JRG espace Jeune Révolutionnaire Genève. Je crois que même juste en tapant JRG, ça marche très bien. Ensuite, sur Instagram, c'est la même chose. On tape Jeune Révolutionnaire Genève. Normalement, quand on est sur Genève, ça sort assez rapidement dans les résultats. Il ne faut vraiment pas hésiter à mettre un j'aime sur Facebook, à s'abonner sur Instagram. Et si tout d'un coup, on est intéressé, que ce soit pour nous rejoindre, que ce soit pour faire une collaboration avec quoi que ce soit, à nous écrire. Vraiment, on ne mord pas. On est ouvert à plein de propositions. Et voilà.
Donc nous, on va vous écrire très certainement très vite. Staff, merci beaucoup. Rosa, merci beaucoup. Bon travail pour toi ce soir. Et puis Mounir, merci également à toi. Et à bientôt.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Voilà, et nous, on se laisse avec ça. C'était Libre Radio. C'était Fréquence Banane également. Salut l'équipe de Lausanne et de Genève. Et on se retrouve lors de nos directs habituels, les samedis 14-17, etc. Ciao.